Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les carnets du monde. On a baladé les micros d'Europe 1 un peu partout sur la planète cette semaine et on vous en rapporte des reportages riches. On fait notre propre salon mondial de l'agriculture. On va entendre des Russes qui ont appris à faire eux-mêmes des chèvres, des mozzarella et autres fromages européens depuis l'embargo de 2014. Nous ferons une halte au Japon où il y a de moins en moins de variétés de riz. Nous irons à la frontière du Venezuela, bouffée d'oxygène de dizaines de milliers d'habitants rationnés, fermés depuis le week-end dernier. Une rencontre avec l'auteur de polar danois Søren Sveistrup pour son dernier roman Octobre. En Italie, les femmes se mobilisent comme jamais contre une recrudescence du machisme et la remise en cause de leurs droits au divorce, au congé maternité ou à l'avortement. Et puis nous passerons un coup de fil à Téhéran, à la première boxeuse iranienne à monter sur un ring officiel. Et ce combat, il aura lieu en France, à Royan, dans quelques semaines. En attendant, Sadaf Radem s'entraîne clandestinement avec l'aide de l'ancien champion du monde de boxe, Maillard Monchipour, il sera notre invité. Une semaine après le sommet du Vatican, nous verrons que le message du pape François sur la pédophilie n'a pas été entendu du tout de la même manière aux quatre coins du globe. Et Joseph Chovanec nous racontera pourquoi les terrains vagues figurent parmi ses souvenirs de voyage les plus forts. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination, la Russie. Ça ne vous a pas échappé, c'est le salon de l'agriculture en ce moment à Paris. Eh bien, dans les carnets, on ouvre le grand salon mondial de l'agriculture. Alors, on va d'abord en Russie, pays privé de fromages français et italiens depuis l'embargo sur les produits alimentaires d'Europe, décrété par Vladimir Poutine il y a 5 ans. Mesure de rétorsion aux sanctions adoptées contre la Russie après l'annexion de la Crimée. Mais ce qui n'était pas vraiment prévu, c'est que les Russes avaient pris goût aux fromages européens. Alors, ils ne se sont pas dégonflés, ils se sont mis à fabriquer eux-mêmes du camembert et de la mozzarella. Reportage en Russie d'Elena Voloshin.
Nous voici sur un marché ultra branché de Moscou en compagnie d'Alexandre, président de la Guilde des fromagers de Russie, créée il n'y a même pas un an.
Ils font du fromage avec du lait de chèvre. Goûtez, c'est très bon.
Ici, on peut trouver tous les fromages qui avant étaient importés d'Europe.
Oui, absolument. Ici, vous voyez de la stracciatella, de la mozzarella, de la burrata, de la bûche de chèvre. Nombre de nos consommateurs n'en sont encore qu'à s'habituer à tous les noms de fromages qu'il y a sur ces étalages.
Ils s'habituent aux noms, mais apparemment pas au prix de tous ces fromages qu'avant, on ne fabriquait pas en Russie.
Non, ce n'est pas la peine de m'interviewer. Je ne vais rien acheter ici, c'est de la folie.
Pourquoi ? C'est trop cher.
Mais oui, un bon fromage coûte plus de 20 euros le kilo. C'est vraiment dommage, mais c'est hors de prix pour une retraitée comme moi. J'espère que bientôt ils vont en fabriquer plus pour que ce soit accessible.
Justement, d'après Alexandre, la tendance est bien là.
Je connais des ingénieurs, des écrivains, des mathématiciens, des juristes, des gens de toutes professions qui ont tout abandonné pour faire du fromage. Des écoles sont apparues, les gens se sont mis à étudier cela, ils sont allés en Europe et notamment en France pour regarder comment on fabrique les fromages.
Ils vont en France.
Voilà, on part sur 20 minutes de salage.
Mais ils invitent aussi les fromagers français, comme Claude, à venir en Russie.
Allez, en saumure.
En banlieue de Moscou, dans une usine flambant neuve, Claude forme ses 3 apprentis.
Et là, il est laissé goûter. Ici, on a fait une technologie type chaume, fromage qu'on trouve en France, hein, ce sont des copies. Nous faisons aussi des reblochons, donc technologie reblochon. On va aussi faire une technologie type vieux pané, et ensuite on ferait une sorte de brique comme la brique président.
C'est exactement le même qu'en France ou il est différent quand même ?
Une petite différence au niveau du croûtage. On fait des produits avec un goût moins prononcé.
Pourquoi ?
Ils n'aiment pas les produits trop forts.
Si on voulait, on pourrait faire exactement les mêmes fromages ?
Oui, tout à fait. Il y a des fois une question de flore d'affinage un petit peu plus compliquée à obtenir. Dans ce cas-là, ils vont directement les chercher en France.
Je laisse Claude à ses élèves pour aller rejoindre Andrei, le patron de cette entreprise familiale.
Ici, c'est notre local d'affinage. Il est assez grand. Toutes les installations climatiques viennent de France.
Andrei travaillait jusque-là dans le bâtiment. Mais en 2015, lui et sa femme ont tout plaqué pour faire du fromage.
Lorsque l'embargo a été adopté, nous étions très malheureux. Nous avons fait une razzia sur le fromage qui restait en magasin. Et quand on a fini de le manger, on a compris que le seul moyen de se procurer ce fromage qu'on aimait tant, c'était de le faire nous-mêmes. On voulait étudier la technologie et nous sommes partis en France visiter des usines. On a compris que produire du fromage, ça ne serait pas facile, mais ce serait toujours plus facile que d'envoyer une fusée dans l'espace.
Retour dans le centre de Moscou. Dans les cuisines d'un restaurant de luxe, j'ai retrouvé Michel Lenz, grand chef cuisinier, aux manettes ici depuis 2011.
Alors, j'aimerais qu'on m'emballe tout ça.
Les fromages, de l'assiette à son menu, lui aussi, les fabrique lui-même.
Tout est fait en Russie. Les boîtes, les étiquettes, tout. Donc là, je vais vous faire goûter fameuse tome, marre de raisin, ce qu'on appelle en Savoie les grappés. Sentez-moi ça, les arômes de lait. Sentez encore.
Michel m'explique que l'embargo a favorisé l'émergence d'une nouvelle culture gastronomique en Russie.
Avant en Russie, ils se nourrissaient. Maintenant, ils dégustent. Les chefs ont pris le pouvoir, mais en fin de compte, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est génial parce qu'ils ont, commencé à chercher, ils ont bricolé, ils sont arrivés à des choses vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Je dirais dans le panorama mondial gastronomique, les Russes ont leur place.
Une gastronomie appréciée par la clientèle privilégiée des grandes villes. Mais ces fromages restent encore un luxe et un produit exotique pour de nombreux Russes. À Moscou, Elena Voloshin, Europe 1.
Des Russes qui produisent de la tomme au marc de raisin, on n'aurait pas vraiment imaginé ça. Alors on retrouve Elena Voloshin en ligne de Moscou. Bonjour Elena.
Bonjour Virginie.
Alors ces fromages, ils sont très chers, on l'a entendu, 20 euros le kilo en moyenne. Donc c'est encore un produit de luxe.
Oui, tout à fait. Ils sont chers pour plusieurs raisons. D'abord à cause du lait qui convient à leur fabrication. Il faut savoir qu'en Russie, ce lait de bonne qualité, il est rare et cher. Ensuite, il y a les coûts de production et de formation des cadres, puisqu'on l'aura compris, les Russes doivent être formés. Aussi, ces fromages, on ne les produit pas encore en grande quantité parce que la demande n'est pas si forte. Les Russes sont quand même, pour l'heure, plus habitués à acheter le bon vieux fromage semi-dur à pâte jaune qu'on consomme depuis l'époque soviétique.
D'accord. Est-ce qu'il y a de la contrebande de chèvre ou de mozzarella par exemple, parce que si c'est interdit, ce doit aussi être prisé par des fins gourmets, j'imagine.
Oui, il y en a, et la preuve, c'est que lorsque je me baladais sur ce marché, pourtant bien en vue, du centre de Moscou, j'ai spoté un roquefort et un faux épi, tout ce qu'il y a de plus français, ils viennent de France, okay. Là, dans la vitrine, gisant tranquillement parmi d'autres fromages. Alors, Constantin, c'est l'un des fromagers avec qui je discutais alors, m'a donné quelques explications, écoutez.
Ils en ramènent dans les valises en petite quantité, expressément pour ce genre de marché ou de restaurant. On entend régulièrement parler de saisies, d'arrestations, de produits de contrebande détruits. Mais des contrebandiers de tout temps, il y en a eu.
Est-ce que ça vaut une grosse...
Vous savez, ça peut valoir une peine de prison.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si demain l'embargo est levé et les fromages européens reviennent en Russie? Est-ce que ça ne va pas léser tous ces nouveaux producteurs russes qui ont émergé?
Eh bien, c'est le risque et c'est tout l'enjeu du moment, la course à la concurrenciabilité pour les producteurs russes, parce qu'il ne s'agit pas seulement des fromages, mais de tous les produits qui sont sous embargo, le lait, les fruits et légumes, la viande, les poissons, en provenance d'Europe et des États-Unis aussi d'ailleurs. L'embargo, c'était une vraie opportunité pour les Russes, ils occupent le marché, mais chacun sait que tôt ou tard, il sera rouvert ce marché, et là, eh bien, il faudra tenir le coup face à la concurrence.
Alors on va guetter la levée éventuelle de cet embargo. Merci beaucoup Elena Voloshin pour cette visite sur les marchés russes. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Et on va maintenant au Japon où la riziculture, la culture du riz, est en train de vivre une crise majeure au pays des presque 800 variétés de riz. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Virginie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Japon, où un pays où le riz c'est vraiment une institution.
Oui, d'ailleurs, en japonais, un seul et même mot, gohan, signifie à la fois le repas et le riz cuit. Ah. Ça montre bien que cette céréale a toujours été l'élément de base de l'alimentation ici.
Oui. Alors, pour nous faire découvrir cet univers, vous êtes allé chez un marchand de riz.
Voilà, chez Namiki, une boutique très connue de Shinamachi dans les quartiers nord de Tokyo. Bonjour.
Bonjour et bienvenue chez Namiki.
Merci de votre accueil dans une maison qui a toute une histoire en plus.
Ah oui, mon grand-père l'a fondée en 1928. Il y a donc 91 ans. On vend une vingtaine de variétés différentes de riz. Celui-ci, c'est du Koshi Ikari, le riz préféré des clients.
Et pour quelle raison,
Pour son goût, sa texture et sa tenue en bouche. Il provient de Niigata, une région côtière du nord-ouest du Japon. Elle compte énormément de rizières qui produisent des riz réputés pour leur qualité.
Et celui-là ?
Alors lui, il vient d'une région qui est située plus au nord. Il a un goût un peu plus fort et une blancheur éclatante.
Et quel est le riz que vous préférez, vous, personnellement ?
Celui-ci, c'est un riz de l'île de Kyushu, dans le sud du pays. Son goût, son parfum, la clarté de ses grains sont incomparables. En plus, il se marie bien avec tous les plats, viande, poisson. C'est une merveille, ce riz.
Voilà, ce marchand pourrait parler pendant des heures de ses produits. Et il a de la matière. Le Japon compte 795 variétés différentes de riz labellisées, de riz AOC, si vous voulez.
Oui, un peu comme la France avec son millier de fromages différents.
Voilà.
Mais il y a encore beaucoup de marchands spécialisés comme ça au Japon, Bernard, parce que j'imagine que comme en France, on trouve du riz dans n'importe quel supermarché.
Oui, et c'est bien pour ça que pas mal de ces petits commerces finissent par fermer. À cause de la concurrence des grandes surfaces, mais aussi celle d'Internet. Les personnes âgées, un Japonais sur trois quasiment, achètent souvent du riz dans des boutiques en ligne, car elles livrent à domicile, ce qui évite à ces seniors de devoir porter des sacs qui sont souvent très lourds.
Oui.
Ici, le riz ne s'achète pas par 100 grammes, mais par kilo. Surtout, les Japonais mangent de moins en moins de riz. Deux bols par jour et par personne en moyenne. C'est quatre fois moins que dans les années 60. La sushi mania a beau avoir conquis le monde, les Japonais, eux, occidentalisent de plus en plus leur alimentation. Et donc, en viennent souvent à préférer le pain au riz. Notamment pour des raisons de santé. Le riz blanc nippon a un indice glycémique très élevé. Ce qui explique qu'il y a toujours eu beaucoup de diabétiques parmi les Japonais. Ils devraient manger plus de riz complet ou de riz sauvage, meilleur pour la santé. Mais ils ont une mauvaise image ici, car pendant des siècles, c'était le riz des pauvres. Seule l'élite avait accès au riz blanc, qui était beaucoup plus cher. Les Japonais mangent moins de riz aussi à cause de leur rythme de travail. Écoutez notre marchand de riz.
Dans ce pays, les gens courent à longueur de journée. Or, préparer le riz dans les règles de l'art, ça prend du temps. Il faut le rincer, puis l'éventer pour qu'il refroidisse bien, etc. De tout temps, les Japonais ont mangé du riz, y compris au petit déjeuner. Mais là, le matin, quand vous devez partir bosser et conduire vos mômes à l'école, évidemment, c'est plus rapide de manger des toasts. Ce changement dans les habitudes de consommation fait chuter nos ventes. Alors avec la concurrence des grandes surfaces en plus. Cela dit, la force des marchanderies, c'est deux choses. D'abord, cette machine... C'est une décortiqueuse, elle enlève les petites enveloppes qui entourent les grains, ce qui donne un riz parfaitement blanc. Attention, ça va faire un peu de bruit. Le riz vendu en supermarché a été décortiqué depuis plusieurs mois. Mais ici, on le décortique au moment même où vous l'achetez, ce qui donne évidemment un produit beaucoup plus frais. Notre autre avantage, c'est ça, le riz bio, qu'on trouve difficilement ailleurs que chez les marchands de riz. Il est plus cher, mais il se vend bien. Car beaucoup de Japonais se méfient de la riziculture traditionnelle à cause de tous les pesticides et les engrais qu'elle utilise. Donc il y a une demande pour le bio.
Je ne savais pas que le riz était décortiqué des mois auparavant. Alors c'est ça, c'est l'avenir de la riziculture japonaise, Bernard, le bio ?
Oui, il y a indéniablement une demande des consommateurs japonais. Mais les agriculteurs sont souvent âgés. La moyenne d'âge de cette profession est de 66 ans.
Ah.
Un grand nombre d'entre eux n'ont pas le courage de se convertir au bio et préfèrent prendre leur retraite. Et assez peu de jeunes prennent leur relais, se lancent eux-mêmes dans la riziculture. Car c'est un métier pénible.
Oui.
En plus, c'est une culture qu'on peut difficilement mécaniser. On voit mal des machines patauger dans l'eau boueuse où pousse le riz, ou grimper d'un niveau à l'autre dans des rizières en terrasse. Donc bref, le Japon tarde à trouver une solution pour relancer la riziculture. Et en attendant, le nombre de rizières en jachère, qui ne sont plus exploitées, ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, ça représente plus d'un demi-million d'hectares de rizières, soit 15% de la superficie agricole totale du pays. Donc, c'est toute la physionomie des campagnes japonaises qui est en train d'être bouleversée par cette évolution. Et le Japon, c'est un comble. On est parfois réduit à devoir importer du riz d'autres pays d'Asie.
Merci Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon, pour cette super balade à travers les sacs de riz. Et à bientôt dans les carnets.
Merci à vous Virginie, bon dimanche.
Au revoir. Europe 1. Dans un instant, on va prendre des nouvelles des Vénézuéliens à la frontière avec la Colombie, une semaine après ces images de camions remplis de nourriture et de médicaments stoppés ou brûlés par l'armée de Nicolas Maduro. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Très bon dimanche, vous écoutez Europe 1, deuxième page de ces carnets du monde, direction le Venezuela.
Pays asphyxié par le gouvernement de Nicolas Maduro, où les camions d'aide humanitaire chargés de vivres et de médicaments en provenance des États-Unis n'ont pas réussi à entrer le week-end dernier. Tout s'est joué autour de la frontière avec la Colombie, tenue par les militaires du régime. Depuis ce coup de force raté de l'opposant Juan Guaido, Maduro n'a pas rouvert les frontières, ni les ponts de la ville frontière, Cúcuta, qui sont pourtant la bouffée d'oxygène de dizaines de milliers de Vénézuéliens chaque jour. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs.
Traverser ce pont, c'était leur respiration. Passer côté colombien, une valise vide à la main, et repartir dans l'autre sens, en tractant un chariot rempli de vivres. Ces deux sœurs avaient l'habitude de le faire chaque semaine. 8 heures de route aller-retour, mais indispensable pour trouver de quoi nourrir la famille.
On achète du riz, de la farine, du sucre, et aussi des médicaments pour la tension pour ma tante. Chez nous, on ne trouve même pas de lait pour les enfants. Et ici, on achète 3 paquets de farine pour le prix d'un seul au Venezuela.
Il y a quelques jours encore, 40 000 personnes traversaient ici quotidiennement dans un flux permanent. Mais depuis une semaine, on ne passe plus. L'armée vénézuélienne a couché des containers en travers. Beaucoup de Vénézuéliens ne retourneront plus au pays. C'est le cas de cette retraitée, visage usé par la fatigue. Depuis des mois, elle vend des briquets sur le bord de la route, espérant trouver en Colombie un traitement pour son mari, très affaibli par un cancer. Le Venezuela ne pouvait plus le soigner.
Ici, on vit au jour le jour. J'ai commencé par vendre des bouteilles d'eau. Le premier jour, j'en ai vendu qu'une, puis 3, puis 8. Et on reste ici de 6h du matin à 9h du soir. Mais mon mari ne va pas bien, je le vois. Le soleil ne lui réussit pas. Et je ne vois toujours pas de solution. Comment peut-on dire que le Venezuela n'a pas besoin d'aide ?
Et si le couple réussit à manger, c'est grâce aux ONG présentes de ce côté de la frontière. À la Croix-Rouge, nous rencontrons André. Lui aussi est venu soigner après un infarctus au Venezuela.
Le docteur m'a prescrit 7 médicaments pour que je puisse continuer à vivre. Là-bas, j'en ai trouvé qu'un ou deux. J'ai dû venir ici chercher les autres. Et je ne compte pas repartir. Pour l'instant, la situation au Venezuela ne s'améliore pas du tout. Je ne vais pas y retourner, ce serait mettre ma vie en danger. Mais on veut tous, au fond, revenir. On veut tous retrouver le Venezuela d'avant. Et c'est pour ça que je veux vivre encore, pour voir de mes propres yeux un jour un Venezuela libre et prospère.
Dans cette zone frontalière, chacun raconte son histoire, sa vie abîmée par la crise humanitaire. Et sous les arbres, Alexandra sèche ses larmes. À 31 ans, elle a tout laissé derrière elle. Son fils de 1 an restera chez sa mère. Elle part vivre et travailler en Équateur. Elle n'avait plus de quoi nourrir son enfant.
C'est tellement dur de voir depuis la fenêtre du bus ton fils, ton tout petit, en pleurs, parce qu'il ne sait pas quand il reverra sa mère. C'est une situation si difficile, c'est juste un enfant. Et qui sait si je le reverrai dans 10 ans? Et je le laisse en pleurs. Il faut vivre ça pour comprendre ce qu'on peut ressentir. Je n'avais pas assez d'argent pour l'emmener.
Là-bas, je ferai le ménage ou n'importe quel métier, dit-elle, pour envoyer de l'argent à mon fils. Elle a pourtant 2 diplômes en poche. Combien de temps cela peut-il encore durer? Se lamente un homme gagné par la lassitude après l'échec de l'entrée d'une aide alimentaire si précieuse.
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comment on va sortir de tout ça? Quand viendra enfin le changement? Les gens meurent à cause du manque de médicaments. On voit des enfants qui mangent des ordures qu'ils ramassent. C'est si douloureux. Et on entend que 80% des gens veulent un changement. Combien de temps ça va prendre? 10 jours? 2 mois? 1 an? Plus encore? Comment avoir confiance en un gouvernement qui ne te laisse même pas respirer, qui est délinquant? C'est fatigant physiquement et psychologiquement aussi.
Beaucoup comme lui ne voient pas d'issue possible. Le régime ne tremble pas, les manifestations n'ont jamais suffi. Comment faire, à part imaginer une sortie par la violence ou par la guerre que personne ne souhaite? Cúcuta, Sébastien Krebs, Europe 1.
Merci Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 au Venezuela.
Europe 1.
Dans un instant, on plonge dans l'univers du polar danois, rencontre avec Søren Sveistrup.
Europe 1, les carnets du monde.
Profitez bien de votre dimanche à l'écoute d'Europe 1. Voici la page littéraire des carnets du monde.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Virginie.
Alors cette semaine, vous nous emmenez au Danemark. Vous êtes allé là-bas rencontrer un auteur de polar.
Oui, Søren Sveistrup. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais il a acquis quand même une certaine notoriété en créant la série The Killing. Oui. Énorme succès mondial. Mmh. Il publie maintenant un polar intitulé Octobre chez Albin Michel.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ?
Nous sommes à Copenhague. C'est l'histoire de Naya Tulin. Elle est inspectrice. Elle en a un peu marre parce qu'elle est jeune et on ne lui confie pas vraiment d'affaires importantes. Pourtant, elle est douée. Elle a envie de plus. Et au lieu de ça, on lui colle dans les pattes un type, Marc S., détaché d'Europol. Il est en intérim, si vous voulez. Mmh. Et ce n'est pas, en apparence en tout cas, un foudre de guerre.
Mais ils sont obligés d'enquêter à deux. Donc.
Exactement. Et justement, ils sont envoyés sur une affaire très étrange. Mmh. Une femme a été assassinée. On la retrouve dans son jardin. Elle est salement amochée. Entre autres bizarreries, sa main a été sectionnée. Autre étrangeté, à côté d'elle, on retrouve un bonhomme en marron.
Un bonhomme en marron, c'est-à-dire ?
Ben, si, vous savez, c'est, vous prenez des marrons, un pour la tête, l'autre pour le corps. Mmh. Ensuite, vous plantez des allumettes pour le cou, les jambes et les bras. Et hop, vous avez un bonhomme en marron.
D'accord.
C'est un truc de gosse, quoi.
Ok, ok. Mais alors, qu'est-ce que ça fait, ça, ce bonhomme en marron, sur une scène de crime ?
Mais c'est toute la question. Surtout un objet comme ça d'enfant, qui symbolise l'innocence à côté d'un crime particulièrement cruel. Mais surtout, surtout, après analyse, on s'aperçoit qu'il y a une empreinte digitale dessus.
Ah.
Il n'y a aucun doute, elle appartient à Christine Hartung, une enfant, la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales du Danemark.
Ah oui. Et alors, c'est quand même pas cet enfant qui est l'assassin.
Sans doute pas. Mais Christine Hartung, vous lirez pour savoir, Christine Hartung est censée être morte surtout. Elle a été enlevée un an plus tôt. On a retrouvé le coupable. Il a avoué son crime et il est en prison.
Ah oui, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui cloche.
N'est-ce pas ? Et donc, Tulin et S enquêtent, d'autant qu'une autre femme est bientôt tuée dans les mêmes conditions. C'est une enquête à l'ancienne. C'est ça ce qui est bon. C'est ce qu'on appelle un « whodunit ». Qui a fait ça, si vous voulez ? Qui a commis le crime ? C'est la catégorie des Sherlock Holmes et des Agatha Christie, les whodunits. Le lecteur est censé avoir tous les éléments pour résoudre lui-même l'énigme. Et Søren Sveistrup, que j'ai rencontré, est un fan du genre.
J'aime toutes les sortes d'histoires à la whodunit. Mais j'en ai lu tellement que je suis un petit peu, comment dire, habitué au retournement de situation, aux fausses pistes. Donc, je ne vous cache pas qu'il m'en faut beaucoup maintenant pour me surprendre, que ce soit dans un livre ou dans une série. Mais j'adore ça, parce qu'ils ont ce petit truc, ils essaient de me cacher une partie de la vérité. Et je pense que les spectateurs des films ou les lecteurs des livres, nous sommes, chacun de nous, nous sommes un petit peu détectives. Je veux dire, lorsque vous voyez quelque chose, vous êtes vous-même un détective. Vous essayez de donner du sens. Qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que c'est très humain et très intéressant. Nous cherchons tous la même chose en vérité. Nous cherchons ce qui est caché.
Ah oui, donc ce whodunit, ça vient de l'anglais. Hein.
Oui.
Qui a fait ça ? Who has done it ?
Exactement.
Okay.
Mais maintenant, c'est devenu un terme générique en un seul mot, whodunit.
Whodunit, ok. Alors, vous l'avez dit, il est le créateur de la série The Killing. Il se met au roman policier. C'est devenu un spécialiste du crime ?
Un peu. D'ailleurs, il a rencontré beaucoup de policiers. Il cherche le réalisme et parfois, il pousse même ses recherches un petit peu trop loin.
Il y a quelques années, je faisais des recherches pour The Killing et j'avais rendez-vous avec un inspecteur de police que je connaissais bien et qui me faisait confiance. À un moment donné, je me souviens, il m'a dit « Je vais te laisser tout seul maintenant avec le dossier de cette affaire ». Naturellement, j'ai épluché le dossier et là, j'ai vu des choses, des photos notamment, d'une tragédie qui s'était déroulée quelque part au Danemark. Ça m'a vraiment totalement impressionné parce que c'était tellement réel. Je veux dire, j'étais en train de regarder une personne morte sur une véritable scène de crime. Toute la scène était tellement implacable, tellement brutale. Et ça m'a aidé à me rappeler que tout ça, ce n'est pas juste fait pour fabriquer quelque chose. C'est d'abord une histoire de ressenti. C'est d'abord quelqu'un qui a perdu un être cher. Et ça, c'est très perturbant. Et souvent, je regrette d'avoir vu ces photos.
Mais est-ce que ça donne de la crédibilité au roman ?
Oh oui, vous y croirez, d'autant que la ville et l'atmosphère sont très bien décrites. précise, ça se passe pendant tout le mois d'octobre au Danemark, donc aucune chance de bronzer. Hein. Mais vous serez peut-être aveuglé en revanche par les fausses pistes de Søren Sveastrup jusqu'à la résolution du crime.
Octobre, donc, chez Albin Michel, traduction
de Caroline Berg.
Merci Nicolas Carreau, à la semaine prochaine avec Sophie Larmoyer.
Europe 1.
Ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. De moins en moins de droits, disent les féministes italiennes. Reportage dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Bel après-midi avec Europe 1, on retrouve Virginie Salmen dans les carnets du monde, direction l'Italie.
Vendredi prochain, le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes et dans une centaine de pays, des femmes vont se mettre en grève générale. On va vous raconter ça en regardant vers l'Italie où le gouvernement populiste d'extrême droite emmené par Matteo Salvini et Luigi Di Maio a libéré en quelque sorte la parole réactionnaire selon les féministes. Un mouvement appelé Non Una Di Meno, pas une de moins, s'est organisé pour défendre les droits des Italiennes. Il compte environ 5000 militantes. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Alors vous les avez rencontrées, ces féministes italiennes qui se sont données comme défi de défendre les femmes de leur pays face à cette politique qu'elles qualifient de machiste et rétrograde.
Oui, je suis allée dans un squat en banlieue de Rome, comme il y en a des dizaines dans la capitale. Toutes les semaines, une cinquantaine de femmes s'y réunissent pour préparer les actions de cette journée du 8 mars. Elles installent un grand cercle de chaises, l'ambiance est chaleureuse. Mais le ton est grave, parce qu'avec l'arrivée au pouvoir de la Ligue d'extrême droite, le parti de Matteo Salvini, les Italiennes constatent que le mépris envers les femmes va crescendo, comme un verrou qui aurait sauté. C'est ce que décrit la jeune militante Federica.
Les harcèlements, c'est tous les jours dans la rue, dans les soirées. À la fac, le prof m'a mis une meilleure note juste parce que j'avais un décolleté. Ils ne sont plus gênés d'être hyper sexistes. C'est déjà présent dans notre culture lourdement machiste en Italie. Mais avec ce gouvernement, je crois que ça a ouvert une brèche. Maintenant, le machisme est justifié, légitimé. Leur politique anti-femme, mais aussi anti-migrants, anti-pauvres, anti-roms, ça a totalement dédouané cette culture de la brutalité.
C'est vraiment édifiant ce qu'elle raconte, les profs qui ne sont plus gênés d'être hyper sexistes. Alors en quoi précisément est-ce que ces femmes se sentent-elles menacées par ce gouvernement populiste ?
Eh bien, par les différents projets de loi ou décrets à l'étude depuis juin dernier, date de l'arrivée au pouvoir de Salvini et de Di Maio. Par exemple, une réforme du congé maternité est en cours. Elle prévoit que les femmes pourraient travailler jusqu'au jour de l'accouchement. Sur les violences domestiques, un mari qui bat sa femme. Un texte à l'étude ne qualifie plus ces faits de violence, mais de conflictualité dans le couple. Et même le droit à l'avortement est fortement remis en cause. Il y a un précédent qui a traumatisé une partie de l'Italie. C'est cette femme de 32 ans, Valentina Miluzzo, qui était enceinte de jumeaux. Elle est morte dans d'atroces souffrances alors que les fœtus étaient dans un état critique. Mais les médecins refusaient de pratiquer l'avortement qui aurait pu la sauver au motif que tant que les cœurs battaient encore, ils ne pouvaient rien faire. Alors quelques mois après cette histoire dramatique, un catholique très conservateur a été nommé ministre de la Famille et il s'est donné pour mission de dissuader les femmes d'avorter. Il faut savoir qu'en Italie, même si l'IVG est légal depuis 1978, il est deux fois moins pratiqué qu'en France, notamment parce que les médecins peuvent se déclarer objecteurs de conscience et refuser de le pratiquer. À tel point que Graziella se sent obligée de remettre ses habits de militante aujourd'hui. Cette retraitée chic a fait toute sa carrière comme cadre de santé dans le plus grand hôpital de Rome. Elle s'était battue pour légaliser l'avortement dans les années 70. Et aujourd'hui, en 2019, elle n'imaginait pas qu'il faille reprendre ce combat.
Aujourd'hui, le service d'avortement de mon hôpital risque la fermeture parce que 99% des médecins sont objecteurs de conscience et refusent de pratiquer l'IVG. Le seul médecin qui ne l'est pas, il part à la retraite. Donc on doit à nouveau se mobiliser. En plus, il y a plusieurs communes italiennes qui sont en train d'intégrer des mouvements anti-IVG dans les cliniques publiques pour expliquer aux femmes qu'il ne faut pas avorter. En fait, ce qui est tragique en Italie, c'est que rien n'est jamais acquis. Donc pour moi, c'était obligé de reprendre la lutte aujourd'hui pour s'opposer avec force à ce gouvernement et puis à une société machiste, patriarcale, fasciste comme la nôtre.
99% des médecins du plus grand hôpital de Rome qui refusent de pratiquer les IVG, effectivement, c'est impressionnant. Alors Blandine, cette tendance conservatrice du gouvernement italien touche aussi les modalités du divorce.
Oui, c'est ce qui préoccupe le plus les féministes italiennes en ce moment. Un projet de loi porté par un sénateur, lui aussi catholique, conservateur, prévoit de modifier les conditions du divorce et c'est en défaveur des femmes. C'est ce que dénonce Tatiana en tirant sur sa cigarette. Cette militante d'une quarantaine d'années est l'une des fondatrices de ce nouveau mouvement féministe italien, Non Una Di Meno.
C'est une réforme très agressive qui supprime la pension alimentaire et à la place, l'enfant sera gardé autant de jours par ses deux parents, par exemple, 13 chez son père et 13 chez sa mère. Il sera aussi prévu que la garde soit alternée dans tous les cas, c'est-à-dire même quand le père est violent, l'enfant sera obligé de le voir et il n'y a aucun recours prévu.
Et bien sûr, l'idée de la garde 50-50, ça pénalise les femmes qui sont peu nombreuses à travailler en Italie et donc à avoir un salaire et des ressources suffisantes. Globalement, c'est un modèle de famille traditionnelle qui fait son retour en Italie au mépris des avancées de la société.
Alors Blandine, comment est-ce que ces féministes italiennes vont marquer le coup ce vendredi 8 mars et avec quel message ?
Alors l'idée du vendredi 8 mars, c'est non pas une manifestation, mais une grève générale de la femme, grève du travail et grève du sexe. L'objectif, c'est de faire comprendre à ce gouvernement l'importance et la force d'opposition des femmes. C'est ce que m'ont expliqué Michaela et Tatiana.
On aimerait que toutes les femmes s'arrêtent de travailler, que ce soit leur travail, les tâches domestiques ou même le sexe pour la reproduction, pour montrer que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. On veut sensibiliser surtout sur celles qui ne peuvent pas prendre un congé parce qu'elles travaillent au noir ou parce qu'elles sont mères au foyer.
C'est une grève qui veut dénoncer les liens entre le sexisme, le patriarcat, le racisme, le capitalisme. Donc cette année, on a lancé des initiatives pour faire grève dans chaque lieu de travail, chaque centre social, école, université, comme des piquets de grève, des blocages, dans toutes les villes italiennes. Notre slogan, c'est « Si ma vie ne vaut rien, je ne produis plus rien ». Parce qu'on voudrait dire à ce gouvernement que oui, on existe et que nous n'arrêterons jamais de lutter et de demander le retrait de chaque loi qui menace la liberté et l'autodétermination des femmes.
Et ce vendredi 8 mars, ce sera donc le point d'orgue de plusieurs semaines de campagne dans toute l'Italie. Et cet hiver, un cortège inédit de 150 000 femmes avait déjà envahi les rues de Rome. Cette fois, les féministes qui porteront toutes des foulards rose fuchsia espèrent rassembler encore plus massivement.
Merci Blandine Hugonnet en ligne de Rome pour Europe 1 de nous avoir raconté les combats de ces femmes italiennes. Et à bientôt Blandine dans les carnets.
À bientôt.
Et on va voir que tous les espoirs sont permis aux féministes italiennes. On va maintenant chez un autre de nos voisins, l'Espagne. C'est là-bas qu'a eu lieu justement l'année dernière une grève générale des femmes sans précédent, avec 5 millions de personnes dans la rue. Et ça recommence ce vendredi avec un nouvel appel à la mobilisation. Loin des clichés, l'Espagne a pris ces derniers temps une longueur d'avance en Europe. On en parle avec notre correspondant à Barcelone, Henri de Laguerie. Bonjour Henri.
Bonjour Virginie.
Alors c'est vrai, on a l'image d'une Espagne un peu macho, mais en réalité les choses ont changé.
Ben oui, hein, parce que ce pays revient de loin. Pendant que le mouvement féministe prenait son envol en France dans le sillon de mai 68, l'Espagne, elle vivait encore sous la dictature, mais depuis 40 ans, le pays s'est bien rattrapé. Et il y a un moment fondateur, cette loi votée en 2004 pour lutter expressément contre ce qu'on appelle ici les violences de genre. Et c'est à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, que c'est devenu une cause nationale. Des mesures de protection et d'assistance aux victimes ont été mises en place avec des numéros d'urgence notamment et un suivi personnalisé des victimes. Et puis, la justice a imposé des bracelets électroniques aux hommes violents. On a créé des tribunaux spécialisés. Enfin, le droit a évolué. On a supprimé les circonstances atténuantes pour les agresseurs.
Et ça a marché ? Ça a produit des résultats ?
Oui, c'est très net. Hein. 76 femmes étaient assassinées chaque année il y a 10 ans à peu près. Et l'année dernière, ce chiffre est descendu à 44. Wow. Alors, c'est forcément trop, mais c'est deux fois moins qu'en France. Il y a une vraie prise de conscience dans la société. On le doit aussi aux médias et à quelques mesures spectaculaires que nous détaille la psychologue, figure du mouvement féministe, Sarah Berbel.
À chaque fois qu'il y a un assassinat machiste, les mairies organisent un deuil officiel et une minute de silence. Il y a aussi une manifestation. Et puis les médias rappellent toujours combien de femmes ont été assassinées depuis le début de l'année. On est là face à un changement extraordinaire en termes de communication autour des violences de genre.
Alors Henri, au-delà du contexte mondial avec le mouvement MeToo, il y a un fait divers qui a marqué les esprits en Espagne.
Oui, c'est cette affaire très médiatique de la Manada, la meute, une jeune femme violée en marge des fêtes de Pamplune par 5 hommes. Et lors de leur procès, il y a un an, la justice a retenu l'abus sexuel et non le viol. Mmh. Et c'est aussi pour dénoncer cette justice qu'elle qualifie de machiste. Kana Sola manifestera vendredi.
Des violations sur une jeune fille de 18 ans par 5 mecs dans lesquels les juges n'ont pas trouvé convenable l'appeler violation, sinon qu'ils ont fait un abus seulement. Ces gens ne sont même pas en prison. Donc on se rend compte qu'on a un État patriarcal, une justice patriarcale, et que ça devient vraiment très très grave.
Alors on l'entend, la justice espagnole a encore des progrès à faire, hein, mais globalement, la situation de l'Espagne en matière de droits des femmes a bien progressé.
Oui, même la différence de salaire entre les hommes et les femmes s'est réduite de 33% depuis 2002. Mmh. Alors le gap est encore de 14%, mais c'est mieux qu'en France où il atteint 18%. Et puis, les politiques ont montré l'exemple. 2/3 des ministres du gouvernement Sanchez sont des femmes.
Ah oui, un immense travail.
C'est beaucoup plus, c'est un record en Europe d'ailleurs. Et un immense travail est fait dans l'éducation nationale pour lutter contre les clichés sexistes. Mmh. Et puis les parents sont de plus en plus sensibles à ces questions. Anna, qu'on vient d'entendre, a 2 garçons de 12 et 10 ans. Elle a une fille de 8 ans et elle aborde souvent ces questions avec eux.
On en parle quand il se passe des choses. Je ne sais pas moi, hier on était dans un bar et un garçon du bar à la fille, avec une serviette, lui donnait un coup dans les fesses. On dirait que c'est rien du tout, mais... On ne sait pas si la fille est d'accord. Je ne vois pas pourquoi elle devrait lui donner un coup dans les fesses. Donc on voit des petites choses comme ça et on parlait. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait? Ça ne serait pas toléré. Plus on parle des choses, plus j'ai l'impression qu'ils comprennent.
Voilà, le combat pour l'égalité femmes-hommes, c'est l'affaire de tous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire vendredi, Henri?
Oui, exactement.
Merci beaucoup et à bientôt dans les Carnets du Monde.
À bientôt, Virginie.
Et à quelques jours de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, on va découvrir une femme, une Iranienne, la première boxeuse du pays à monter sur un ring. Sada Fratem, elle sera en France, donc on entendra probablement parler d'elle début avril. Elle vient mener son premier combat à Royan, en Charente-Maritime. Alors l'immense difficulté pour elle, c'est que la boxe reste interdite aux femmes en Iran. On a pu la joindre quelques minutes par téléphone depuis Téhéran. Elle explique pourquoi elle brave l'interdiction des mollahs.
C'est tellement différent de tous les autres sports. Quand vous boxez, vous sentez quelque chose en vous que vous ignoriez auparavant. Je veux montrer que les Iraniennes sont très fortes, sont de vraies combattantes. Puisque mon pays m'interdit d'être une boxeuse professionnelle, je ne pourrai jamais être une boxeuse de haut niveau. Parce que je ne sais pas ce que je donne en combat sur 3 rounds. C'est dur. C'est vraiment très dur.
Et nous sommes en ligne avec celui qui a découvert en quelque sorte cette boxeuse iranienne, l'ancien champion du monde Mayar Monshipour. Bonjour.
Bonjour. Elle m'a donné les larmes aux yeux encore.
Ah
je
ouais,
crois que pendant,
oui.
pendant un mois, je vais la voir souvent.
On a hâte de la rencontrer, qu'elle vienne vraiment en France début avril. Alors merci d'être avec nous, Mayar Monshipour. D'abord, comment fait Sada Fratem pour pratiquer ce sport en Iran? Comment elle fait pour s'entraîner au quotidien?
Ben, en fait, la vie des femmes en Iran, d'une partie de la population, la vie des jeunes, hommes ou femmes, elle est underground. Il y a des activités donc, d'art, des activités par exemple de musique et sportives, notamment mixtes. Bah, tout ça, c'est en cachette. Donc, elle a comme plein d'Iraniennes, sa vie publique et sa vie privée.
D'accord. Donc, pour elle, c'est clandestin, les entraînements.
Et oui.
Qu'est-ce qu'elle risque à s'entraîner comme ça, clandestinement?
Honnêtement, le régime s'est beaucoup, beaucoup assoupli. Mais dans l'absolu, en fait, si on le découvre en s'entraînant dans un endroit... un peu fermé, ils ont déjà 1 ou 2 nuits de garde à vue, ils peuvent se faire insulter, se faire molester, voilà.
Et, donc elle pourrait se faire arrêter.
C'est une vie cachée tout le temps, ça ne doit pas être évident à vivre.
Oui, elle pourrait se faire arrêter parce que j'imagine que les autorités ferment les yeux. Elle a quand même un compte Instagram avec 17 000 abonnés, ils doivent savoir qui elle est quand même.
Oui, bien sûr. Alors, il y en a une autre que je connais très bien, Mali Hemardi, qui fait du MMA, elle vit en Iran. Et ça l'empêche pas d'aller à l'étranger, d'être en débardeur, en short moulant, de combattre, d'être très visible et de rentrer. Donc maintenant, il y aura dans le sport de combat le plus noble, le plus connu, le sport olympique, la boxe, il y aura une autre, Sadaf.
D'accord, donc elle contribue à assouplir un petit peu les mœurs. Et qu'est-ce qui vous a touché, vous, chez elle? Pourquoi vous lui avez proposé de venir en France?
Alors, c'est pas du tout de l'égoïsme. J'essaye à mon petit niveau sport, de participer à ce mouvement. Il y a un mouvement de fond qui veut, qui appelle à plus de liberté, plus de souplesse. Donc, je veux en faire partie. Je ne peux pas être tranquille chez moi, me mettre en short, aller avec ma fille et ma femme dehors et puis dire, bah, voilà, ils vivent et puis y aller une fois par an et puis vivre la belle vie. Je veux participer à ce mouvement. C'est un mouvement qu'on n'a pas le droit de rater.
D'accord. Donc, vous, Mayar Moshipour, vous luttez pour les droits des femmes iraniennes.
Oui. Vous savez, par une loi religieuse, elles valent la moitié de l'homme. Alors, oui. Elles ont acquis énormément de droits en Iran, puisqu'elles sont plus diplômées que les hommes. Elles ont des diplômes, elles gagnent leur vie, elles ont leur mot à dire. Mais dès qu'il s'agit des fondements de la vie, le droit de divorce, la garde des enfants, le témoignage devant un tribunal, le fait d'occuper certains postes, bah, je peux vous dire, elle part pas d'égalité, mais juste d'avoir un peu plus de droits. Donc, c'est une petite pièce, et c'est une petite goutte parmi tout ce que font les autres.
Alors, quel est votre but maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez de cette venue en France, à Royan ?
Honnêtement, donc, qu'elles prennent plaisir, qu'elles viennent un peu vivre, elles, déjà égoïstement, elles, c'est tout d'abord pour elles, et elles, c'est qui ? C'est une femme iranienne. C'est démontrer à tout le monde que, un, c'est possible, ça, on le sait, mais... J'aimerais vraiment, en fait, dans mes rêves, c'est qu'elle devienne une star en Iran. J'aimerais, moi, dans mon rêve, c'est le retour le 16 avril et qu'il y ait plusieurs milliers de personnes pour l'attendre à l'aéroport. Ça la protégerait et ça lancerait encore un mouvement parmi d'autres, cette fois-ci grâce au sport. Il ne faut pas qu'on soit en reste. Il n'y a pas que l'art, il n'y a pas que la science. Il y a également le sport qui peut tendre, qui peut travailler pour l'égalité entre les sexes.
Et on retient donc bien son nom, Sada Fratem. Merci beaucoup, Mayar Moshipour, ancien champion du monde de boxe, de nous avoir fait découvrir cette future star de la boxe iranienne.
Avec plaisir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, le débrief de Virginie Riva, de retour du sommet sur la pédophilie au Vatican. Le message du pape a résonné très différemment d'un pays à l'autre. Nous irons au Vietnam.
Europe 1. 13h, 14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et vous écoutez Europe 1, la suite des carnets du monde maintenant sur Europe 1.
Les évêques du monde entier étaient réunis la semaine dernière à Rome par le pape François pour un sommet historique sur la pédophilie. On avait l'impression que, ça y est, la prise de conscience avait enfin eu lieu partout dans le monde. Mais dans certains pays d'Afrique, d'Asie, la pédophilie est encore très taboue dans l'Église et le message du pape n'a pas eu beaucoup d'écho. Vous y étiez, Virginie Riva, envoyée spéciale pour Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Ce dont vous vous êtes rendu compte en interrogeant des sœurs, des prêtres, des évêques, c'est que le message du pape François n'est pas passé du tout de la même manière à New York ou à Abidjan.
Non, c'est sûr, il y a les pays qui ont réagi très fortement, comme les États-Unis. Là-bas, l'Église a été confrontée à des scandales de très grande ampleur. Mmh. En août dernier, par exemple, le procureur de Pennsylvanie publie un rapport accablant détaillant 1000 cas d'abus sexuels sur enfants commis par 300 prêtres. Oui. Alors, une fois les affaires révélées par les médias, des mesures extrêmes ont été prises. Les noms des prêtres pédophiles soupçonnés d'actes de pédophilie, je dis bien soupçonnés, pas condamnés, ont été publiés. Les victimes ont été indemnisées pour des sommes records, des milliards d'euros au total. Le Canada aussi est à la pointe du combat, l'Australie, l'Allemagne et puis la France, mais essentiellement depuis 2016 et l'affaire Barbarin. Mmh. Mais à l'inverse, des pays d'Asie ou d'Afrique sont encore très loin de cette prise de conscience. Aucun gros scandale n'a encore explosé. Certains évêques ont même clairement exprimé une surprise d'être convoqués à Rome sur ce sujet par le pape. Mmh. Et c'est cette forme de déni qui a fait réagir la sœur Véronica Openibo, responsable d'une congrégation au Nigeria. Voilà ce qu'elle aura à lancer au beau milieu d'une séance plénière.
Probablement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai entendu certains Africains et Asiatiques dire que ce n'est pas un problème que nous avons dans les pays en Afrique et en Asie. C'est un problème en Europe, aux Amériques, au Canada et en Australie. Toutefois, pendant 9 ans, j'ai travaillé partout au Nigeria, dans le domaine de l'éducation sexuelle. J'ai écouté de nombreux récits, aidé de nombreuses personnes. Trop souvent, nous voulons garder le silence jusqu'à ce que la tempête passe. Cette tempête ne passera pas.
On entend l'émotion de cette sœur. Hein. Aucun scandale n'a éclaté, mais elle, elle a pourtant bien entendu des récits de victimes.
Effectivement.
Alors, ça veut dire qu'une affaire de pédophilie dans l'Église aux États-Unis ne sera pas traitée de la même manière que dans un pays d'Afrique ou d'Asie ?
Oui, dans les pays occidentaux, c'est surtout la justice civile qui a permis de faire avancer la lutte contre ce fléau. Ça a été un accélérateur. Mais en Afrique, par exemple, les tribunaux n'ont pas eu le même rôle. D'ailleurs, aucun évêque africain n'a accepté de parler de pédophilie aux médias français à Rome. Oui. C'est très révélateur. Mmh. Là-bas, les affaires de pédophilie se règle même encore de façon très traditionnelle dans les villages, nous raconte Monseigneur Pontier, qui était le représentant de la France à ce sommet du Vatican.
Le village se rassemble, il y a quelqu'un qui accuse quelqu'un, ils sont là, ils discutent, ils regardent les faits, ils regardent qui est coupable de quoi, et puis on fait la vérité, puis on tourne la page.
Et Monseigneur Pontier le dit lui-même, avoir conscience de la profondeur des souffrances des victimes, c'est quelque chose de très récent dans l'Église, même en France, où on est encore loin des anglo-saxons qui, eux, parlent de survivants pour qualifier les victimes. Donc c'est leur parole qui a fait bouger les choses partout. Mmh. Benjamin Kitobo a été abusé au Zaïre. Il a enfin osé parler une fois qu'il a vécu aux États-Unis.
J'ai été abusé, molesté. Quand j'ai essayé de frapper à la porte de mon évêque, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je ne te reçois pas. Il a fermé la porte. En Afrique, l'Église est encore très puissante. Imaginez-vous, vous êtes dans un village, ils ont le dispensaire, ils ont les corps. Alors vous êtes un peu individuellement parlé contre eux. Vous êtes menacé pratiquement. Tout le monde va contre vous.
Apprendre à écouter les victimes, c'est ce que le pape François a tenté de faire durant ce sommet, même si la conclusion a été plus que décevante. La seule vraie mesure annoncée, c'est cette task force des groupes de travail constitués au Vatican pour venir épauler les conférences épiscopales qui manquent de moyens financiers et de compétences humaines.
Merci Virginie Riva d'avoir débriefé avec nous ce sommet historique au Vatican. Et on va aller vérifier si ce qui s'est dit à Rome colle à la réalité des fidèles catholiques au Vietnam. Frédéric Noir, bonjour, vous êtes à Ho Chi Minh-ville, au sud du pays. Et effectivement, la pédophilie, on n'en parle ni dans la presse, ni dans les paroisses, ça n'existe pas. Hein.
Écoutez, personnellement, j'habite au Vietnam depuis plus de 10 ans. Je lis les journaux tous les jours et je n'ai pas le souvenir d'un seul scandale sexuel impliquant un membre du clergé vietnamien qui aurait fait la une des journaux. En fait, au Vietnam, on ne parle quasiment pas de pédophilie. Et pour certains, c'est même un problème qui n'existe pas, comme l'explique Mai, une trentenaire très pratiquante qui a accepté de me parler.
Je vais à l'église toutes les semaines, mais je n'ai jamais entendu parler le prêtre de ce sujet. Au Vietnam, ce problème n'est pas très commun. Mon père, qui est très religieux et va souvent à l'église, m'a expliqué que cela n'existait que dans les pays occidentaux où il y a beaucoup de liberté.
Dire que l'on ne parle pas du tout de pédophilie serait exagéré. Il y a des catholiques qui ont entendu le message du pape lors du sommet au Vatican la semaine dernière, mais ils ne se sentent pas concernés, pas au Vietnam. Pour Nhung, une jeune catholique vietnamienne, l'église est d'ailleurs tout à fait transparente sur le sujet.
Les pères sont ouverts, ils ne veulent pas cacher ce problème. Ils veulent vraiment le partager avec la communauté catholique pour que l'on protège les enfants. Ils nous demandent de coopérer avec la police pour créer un meilleur environnement au sein de l'Église catholique.
Ce sommet au Vatican aura permis de parler de pédophilie, si ce n'est entre fidèles, au moins dans les médias.
Merci pour ce reportage, Frédéric Noir à Ho Chi Minh-ville au Vietnam, et merci Virginie Riva.
Merci à vous.
À bientôt. Europe 1. Dans un instant, Joseph Chovanec nous emmène avec son regard singulier en vacances sur des terrains vagues.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est philosophe, grand voyageur. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le seul chroniqueur radio porteur d'autisme Asperger. C'est son rendez-vous.
Dernière destination de ces carnets, on part en Autistan avec Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Virginie, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, drôle de destination, vous nous emmenez en voyage dans les terrains vagues.
Oui Virginie, c'est très simple. Quand on visite des métropoles, en général on cherche les quartiers dits intéressants, comme disent les non-autistes branchés, oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité, c'est une blague autiste. Hein. Mais ce n'est pas forcément comme ça que l'on découvre réellement les lieux. Il vaut mieux commencer ces explorations par la périphérie, plus précisément, oui, ces zones oubliées, terrains vagues et autres zones industrielles, en général bien plus intéressantes.
Alors vous allez nous expliquer pourquoi ?
Mais j'avais fait ce Costa il y a des années de cela déjà. J'apprenais alors à voyager dans la douleur et j'avais exploré longuement à pied la zone industrielle autour du petit aéroport de Beauvais, donc des hangars, des hôtels bas de gamme, etc. Un lieu que d'ordinaire tout le monde fuit. J'avais été frappé par le côté presque philosophique de l'endroit. C'est logique, étant donné que les rares êtres humains essayent de fuir dès que possible cette zone. Cela donne à méditer sur notre condition humaine de voyageur. Et tout simplement, je n'oublierai jamais certains terrains vagues. À commencer peut-être par l'un des plus grands terrains vagues urbains au monde, totalement inconnu ou presque. C'est l'immense friche de Vacarești. C'est au sud de Bucarest, en Roumanie. Je m'y suis retrouvé un peu par hasard du temps où j'habitais là-bas. À l'origine, c'était le despote communiste Ceausescu qui voulait y implanter un projet fou. Mais aujourd'hui, l'endroit est à l'abandon. C'est devenu un réservoir de biodiversité. Ah. De nombreux cours d'eau, des points d'eau sont apparus spontanément. Des espèces d'oiseaux et d'autres animaux qu'on ne s'attendrait certainement pas à y croiser.
Effectivement, c'est une sorte de pied de nez de la nature.
Et oui, et avantage autistique supplémentaire par rapport au parc botanique officiel, c'est qu'il n'y a quasiment personne. Ah. Visiter la friche de Vacarești, c'est un peu comme entrer dans un autre monde, peut-être plus réel que celui auquel nous sommes habitués.
Et alors ça, Joseph, ça fonctionne même dans les vieilles villes, les lieux hautement touristiques ?
Mais oui, Virginie, surtout là. Ah. Souvent, dans les vieilles villes, c'est le centre historique qui devient un terrain vague quand il sombre dans l'oubli. Ah. Et en Iran, à mon avis, le cas de figure est le plus saisissant. Par exemple, tous les guides touristiques vous diront qu'il n'y a rien à voir à Téhéran, certes, mais au sud de Téhéran, un peu oublié, s'étend une zone à l'abandon, la ville de Rey. Je m'y étais aventuré un soir d'hiver. J'avais bravé les mises en garde d'un gardien de la révolution islamique qui s'étonnait de voir un étranger errer par là-bas.
Oui.
Et je n'ai pas regretté. C'est là qu'on trouve une concentration invraisemblable de ruines, de temples du feu zoroastrien, de forteresses et autres lieux d'histoire. Après tout, peu de villes hors de Palestine sont mentionnées dans les textes bibliques.
Alors vous m'avez raconté avoir fait une découverte encore plus extraordinaire, peut-être, enfin pas très grand public quand même, hein, comme type de voyage.
Exact. Ça, c'était un peu à l'écart de la deuxième grande ville d'Iran, Isfahan. Hein. Il y a une colline qui se dresse là-bas, quasiment inconnue, y compris des habitants ferrés d'histoire. Mmh. Elle accueille une dormée. Une dormée, c'est une tour du silence.
D'accord. Ça sert à quoi, ça ?
Naguère, les Zoroastriens, ils portaient les cadavres de leurs défunts. D'accord. Et les oiseaux du ciel, ensuite, mangeaient les corps. J'avais dû longuement négocier avec un chauffeur de taxi pour pouvoir m'y rendre. J'ai grimpé la pente raide un soir de neige dans un décor de film d'horreur avec la silhouette noire de la muraille en ruine.
Drôle d'excursion quand même.
Mais le lendemain, j'ai essayé de raconter mes aventures à mes amis iraniens. Ils m'ont écouté par politesse, mais ils ne m'ont pas cru. Et j'étais un peu irrité.
Oui,
ce n'est que plus tard que j'ai compris. Contrairement aux histoires des quartiers branchés, l'expérience des terrains vagues et friches industrielles ne se partage pas. Elle est beaucoup trop intime. Elle nous marque l'esprit, sinon le cœur, pour le restant de la vie. Comme le disait Omar Khayyam, l'un des grands poètes des plaines immenses d'Asie centrale, Ashok Daromadim Vabarbod Shadim.
Donc
nous fûmes venus de la poussière et nous allâmes dans le vent.
Voilà pour le voyage initiatique en quelque sorte de Joseph Chovanec. Merci beaucoup Joseph et à dimanche prochain avec Sophie Larmoyer.
À très bientôt.
Europe 1.
Merci d'avoir tourné avec nous les pages de ces carnets du monde. Un petit cadeau de fin, vous pouvez réécouter toutes les émissions, tous les reportages en podcast. C'est gratuit sur l'application d'Europe 1 sur votre smartphone. Merci à Sophie Mallier qui réalise cette émission. Florence Gimalac qui m'a aidé à la préparer. La semaine prochaine, vous retrouverez Sophie Larmoyer. D'ici là, bon dimanche.